La Voix du Partage, le podcast pour cultiver la douceur de vivre au quotidien. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent vivre plus de tendresse dans la vie de tous les jours. Nous avons le choix à chaque instant, entre le sourire ou la grimace, entre les mains ouvertes qui veulent caresser ou les poings fermés qui veulent se défendre. Ici, à chaque épisode, je propose de vous emmener dans un dialogue à travers différents thèmes qui jalonnent le quotidien d'une vie humaine et vous transmettre quelques clés pour cultiver la douceur de vivre dans nos journées. Avec Sanji Rambwatyana, cofondateur d'Arthas Entraide, je voudrais vous partager un nouveau regard sur l'intériorité humaine. Puissent ces échanges vous inspirer de façon concrète. Aujourd'hui, si on choisit d'être en couple, c'est pour vivre des moments ensemble et s'aimer. Mais avec le temps, chaque jour, le couple traverse des tensions, au point que parfois on se demande si on va rester ensemble. Dans cet épisode, nous allons aborder les grandes étapes du couple et quelques ingrédients pour re-choisir d'aimer, re-choisir de vivre ensemble. J'espère que ça vous donnera envie de vous donner la chance de vivre plus de moments de communion à deux.
Bonjour Sanji.
Bonjour Estelle.
Alors aujourd'hui on se voit, j'avais envie d'aborder avec toi le thème du couple, qui est un sujet, je pense, central pour beaucoup de gens, qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs. Et pour moi, le sujet aujourd'hui que je voulais évoquer, c'était vivre en couple dans la durée, qui est un axe particulier, parce que ben, moi-même, je suis en couple depuis une vingtaine d'années, et donc j'ai bien vu qu'on est passé par différentes étapes. Et effectivement, aujourd'hui, je suis contente aussi d'avoir une certaine maturité. Il y a des choses que j'ai vécues en début de relation, j'ai vu qu'ils se sont améliorés, et puis d'autres peut-être maintenant qui me manquent. En tout cas, voilà, je vois bien que le couple ça évolue dans le temps, et j'aimerais bien que tu m'éclaires moi sur cette première partie. Je me suis reposée en fait dans cette première partie de couple où au début on voit en l'autre tous les points communs qu'on a avec lui. Enfin, il y a une passion du début, il y a quelque chose de très beau. Et je me suis revue à un instant, je pense que ça devait faire un an et demi qu'on était en couple, un instant lors d'un voyage où là j'ai commencé à sentir que ça allait pas être ça tout le temps. Et j'ai eu plein de questions qui me sont montées en fait est-ce que tu es prête à accepter que l'autre il va pas combler tous tes besoins? Est-ce que? Et voilà, j'ai senti en moi une étape en fait de me dire là maintenant c'est l'heure peut-être des compromis, c'est plus l'heure de la passion paisible où on voit que du positif en l'autre quoi. Voilà, donc je voudrais bien un peu ton éclairage sur ce qui se joue sur cette première partie.
J'ai remonté un petit peu en amont, si tu me permets. Je dirais que dans la vie de couple, en fait, si on regarde de près, il y a plusieurs étapes. Il y a effectivement cette première étape dont tu parles, qui est le moment où on se rencontre et où on commence à avoir un échange de sentiments profonds. Cette étape, c'est qui marque le tout début de la relation à deux. C'est vraiment l'étape de la passion amoureuse, quoi. L'étape, elle est beaucoup marquée par le fait que on découvre l'autre et on le découvre à travers nos rêves de passion amoureuse. Et nous ne cessons d'apercevoir chez l'autre que des aspects positifs qui viennent conforter notre rêve. Et ce rêve, il est absolument nécessaire parce que sinon nous n'aurions pas la force de nous tourner vers quelqu'un dont nous savons déjà dès le début qu'il ne va pas être comme nous. Nous sommes en train, en fait, d'aller chercher en nous des ressources, un courage, une impulsion, un sentiment qui nous donne la force de traverser et de nous confronter à la différence de l'autre. On l'a pas encore vu, cette différence. Mais en tout cas, on a fait un premier pas pour essayer de rencontrer l'autre. La deuxième étape dont tu parles, c'est le moment où on découvre qu'en fait, après l'avoir rêvé grand, beau, fort, parfait, idéal, nous découvrons que notre partenaire n'est pas exactement ce que nous avons rêvé. Il est par certains côtés conforme à notre rêve, mais surtout, il est par d'autres pas du tout. Je dirais que c'est le moment où l'amour commence à mûrir. À ce moment-là, nous allons découvrir que nous devons apprendre à vivre avec la différence de l'autre. Nous devons effectivement, comme tu l'évoquais, passer des compromis avec lui et accepter que de temps en temps, il faut que nous nous effacions pour que l'autre puisse exister à notre côté. Parce que ce qui devient plus important que notre personne, c'est notre couple, c'est notre relation. C'est une phase de maturation. Nous sommes en train de rencontrer les différences pour l'instant extérieures de l'autre. Mais on le verra sans doute et on va sans doute l'aborder après. Il y a d'autres étapes qui vont nous emmener vers une rencontre de plus en plus profonde avec l'autre. Pour que notre amour passe d'un amour, je dirais, passionnel à un amour profond. Une intimité et un sentiment de communion, dirais-je, intérieure avec l'autre. Ça tombe pas tout cuit, ça se conquiert petit à petit. Je dirais que le couple est un véritable cheminement spirituel.
Alors, ce que tu évoques là, voilà, la communion, évidemment, ça fait très envie. Et quand je me replonge dans l'histoire de mon couple, l'étape suivante, et là, on a mis du temps à vraiment s'installer ensemble, commencer un premier cran d'engagement. Et je me suis rendu compte en vivant au quotidien ensemble qu'il y a des choses qui étaient très chouettes, se retrouver le soir, partager nos journées, mais aussi des choses toutes bêtes et toutes simples du quotidien qui étaient très agaçantes. Voilà, des cheveux qui traînent dans la baignoire, des affaires pas rangées. Et que ces petites tensions-là, eh ben, elles font aussi partie du quotidien et elles peuvent beaucoup polluer cette vie de couple. Alors voilà, quelle place ont ces la gestion, on va dire, de ces tensions, de ces agacements quotidiens.
En fait, c'est pas une pollution. Ça fait partie de la vie de couple. Ça fait partie intégrante de la vie de couple. Dans le fait de rencontrer l'autre dans tous nos agacements. En fait, les agacements, ce que tu appelles des agacements, c'est la rencontre avec l'imperfection de l'autre. Nous, on l'a rêvé parfait et on est en train de découvrir qu'en fait, il est chargé d'imperfection. Alors de deux choses l'une, soit on se contente de « il m'agace et j'aimerais bien qu'il change ». Et on a tous traversé une période comme ça, où on essaye d'expliquer à l'autre qu'en fait, il doit correspondre à nos rêves et à nos idéaux. Soit on décide que il va falloir que on dépasse nos agacements pour essayer d'aimer encore plus. Peut-être que les agacements qu'on traverse sont la source d'un amour encore plus fort. Mais ça demande qu'on essaye d'apercevoir, derrière les agacements, ce qui en fait nous agace à nous profondément. Nous allons nous apercevoir que l'autre va sans cesse nous faire miroir à « tu dis que tu m'aimes, mais regarde comme tu m'aimes tellement imparfaitement ». Il faut que nous nous intéressions à, en fait, devant un vêtement qui traîne, ce qui en fait nous agace, nous. L'autre, il n'a pas fait exprès de laisser traîner son vêtement. Il cherche pas à nous agacer volontairement. Ça, c'est nos commentaires intérieurs qui essaient de nous le faire croire. Mais en vérité, il a juste laissé traîner son vêtement. Mais par quel étrange mystère, le fait que ce vêtement traîne nous agace-t-il? Dans le couple, nous allons dans cette deuxième étape que nous évoquions tout à l'heure, où nous allons passer d'un amour idéal à un amour plus réaliste, nous allons sans cesse être renvoyés à « regarde ». Tu voudrais aimer? Regarde comme tu n'y arrives pas. Comme si l'autre était un miroir qui nous renvoyait sans cesse vers nos agacements, nos petitesses, toutes nos limites amoureuses. Il faut qu'à ce moment-là, nous fassions une rencontre très importante, c'est la rencontre avec nous-mêmes dans nos attentes et nos comportements amoureux. Comment se fait-il que moi, j'ai tant besoin que tout soit si rangé? D'où ça me vient? Qu'est-ce qui se passe en moi? Que l'autre est en train, ni plus ni moins, de souligner, comme avec un Stavylobos. Alors nous avons une rencontre, dans cette deuxième étape du couple, avec nous-mêmes d'abord. Peu à peu, lorsque nous allons nous apaiser avec nos agacements ordinaires, qui font partie de la vie de couple, et que nous allons nous apercevoir qu'en fait, c'est notre propre histoire que les faits et gestes de l'autre allument et que ça n'a rien à voir avec lui. Il nous met devant notre monde. Et au fur et à mesure que nous allons rencontrer notre monde et que nous allons l'accepter, nous allons rentrer dans une nouvelle étape du couple où à ce moment-là, nous allons plus être intéressés par que se passe-t-il dans notre partenaire pour qu'il ait besoin de laisser traîner un jean. Et là, nous allons rencontrer son monde tel qu'il est. Pas tel que nous l'imaginons, tel qu'il est. Dans ces trois premières étapes, il y a donc amour idéal, amour réaliste, mes propres limites. Amour réaliste, ses limites. Et que peut-être c'est grâce à l'amour que nous portons à l'autre que nous allons être capables de nous aimer, de nous dépasser dans nos limites. Et que nous allons être capables de l'aimer dans ses limites. Pour que l'amour soit plus fort que nos agacements. Nous sommes en fait dans la construction, à mon avis, bien plus profonde du couple que cette espèce de passion idéale dont nous gardons tous une nostalgie.
Mmh. Ouais, j'entends que c'est des étapes de maturité pour vraiment être avec l'autre. Et moi, il me revient un moment justement où je rentrais chez moi après une journée difficile et je vois bien comme j'étais dans l'attente d'un câlin de la part de mon compagnon, enfin d'un soutien, j'étais dans l'attente et en fait il s'est rien passé parce que j'avais une attitude fermée, que j'ai rien dit et que je vois bien que non seulement j'avais pas pris le temps en fait de moi m'écouter, sentir cette journée difficile, prendre le temps de me réconforter en quelque sorte. Et surtout, ce qui me touche maintenant, en me remémorant ce moment, c'est que ça m'a aussi coupé de mon compagnon, c'est-à-dire que j'étais pas tournée vers lui. Et que je sens bien que ce que tu viens de dire, c'est prendre déjà soin de soi, de s'écouter, pour pouvoir être vraiment avec l'autre au lieu d'être dans des attentes perpétuelles.
En fait, ce que tu évoques là, ça fait partie de cette deuxième étape, je dirais, de l'autre miroir de nous-mêmes. En fait, ce que l'on va beaucoup découvrir dans cette période, si on s'y intéresse et qu'on s'intéresse à nos fonctionnements intérieurs, on va découvrir en fait qu'on a des attentes vis-à-vis de l'autre, de choses que nous ne faisons pas pour nous. Nous avons des attentes vis-à-vis de l'autre qui proviennent en fait de manques liés à notre histoire. Nous avons, parce que c'est le langage de l'amour que nous avons appris dans notre passé, nous avons choisi un conjoint, nous avons choisi une compagne qui n'est ni plus ni moins le prolongement des êtres que nous avons aimés dans notre passé. Le moment où nous apprenons véritablement l'apprentissage du couple, j'ai le sentiment que c'est sans ce premier couple où nous rencontrons notre maman en fait. L'enfant et la maman, dans les premiers âges de l'année, dans les premières années de vie, vont former un véritable couple. Nous avons été aimés d'une certaine façon et nous avons aimé d'une certaine façon. Eh bien, nous attendons avec notre conjoint qu'il vienne soit compenser les manques d'amour que nous avons eus, soit qu'il prolonge l'amour que nous avons eu avec notre maman, mais lui, il n'est pas notre maman. Et sans cesse, il va nous renvoyer vers « Regarde, je ne peux pas répondre à tes attentes. » Tout ça pour que nous, nous apprenions d'abord à aller chercher en nous les ressources qui vont venir combler ce manque. L'autre, il ne pourra jamais les combler, parce qu'il n'est pas le personnage que nous attendons. Il n'est pas notre maman. Il ne pourra pas réparer notre histoire. La seule chose que nous avons à faire, nous, c'est à nous mettre en paix avec notre histoire. Et nous allons nous apercevoir que sans cesse, nous avons des projections et des attentes sur l'autre qui ne correspondent pas au présent, qui sont des compensations de notre passé. On va voir dans notre conjoint notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, comme si nous faisions jouer la grande comédie de notre passé dans l'espoir qu'il nous apporte l'amour que nous n'avons pas, d'après nous, suffisamment reçu dans notre passé. Mais il peut pas y répondre, parce qu'il n'est pas ce personnage de notre passé. Ce travail de mise en paix avec notre passé, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est nous-mêmes. Alors voilà une jeune femme qui rentre et qui aimerait trouver l'écoute, peut-être, qu'elle n'a pas trouvé auprès de ses parents. Et inconsciemment, en fait, c'est ça qu'elle attend. Mais comme ce sont des mécanismes inconscients profonds, nous n'arrivons pas toujours à les identifier, ni à les formuler. Si bien que l'autre, il ne sait pas exactement ce qu'il pourrait faire pour nous aider, pour nous rassurer, pour être cette oreille bienveillante, parce que nous ne lui demandons pas. Il y a donc, si l'on veut faire jouer à notre conjoint ce rôle tellement complémentaire à nous, nous avons besoin de nous rencontrer. Nous avons besoin de savoir dans notre histoire ce que nous pouvons déjà nous apporter et que peut-être, si nous l'apportons, nous pouvons demander une touche finale à notre conjoint. Mais il faut qu'on soit conscient de notre attente et conscient de notre demande. Donc dans l'étape que tu évoques, il est extrêmement important pour un couple, pour une personne qui est en couple, de s'intéresser à lui, à ses attentes profondes, et au rôle qu'il est en train de faire jouer à son conjoint, un rôle conforme à celui des personnages de son passé. Il y a tout un jeu de projection que nous devons découvrir et que nous devons peu à peu apprendre à désamorcer, parce que ça nous met en face d'attentes, de choses que notre conjoint ne peut pas nous donner. Alors on est déçu, alors on se dispute, et alors la vie de couple se dégrade.
Et moi, ce qui me touche là-dedans, c'est que quand on est là-dedans, on ne peut pas être vraiment tourné vers l'autre. On ne peut pas être dans le don de soi. Et pour moi, c'est une dimension aussi de la vie de couple.
Effectivement, à ce moment-là, nous sommes en attente que l'autre nous donne de l'amour. Or, aimer, ça devrait être en donner. Donc on est en attente que l'autre nous donne de l'amour. Et comme notre conjoint ou notre partenaire fait exactement pareil, eh bien, voilà que ce couple, peu à peu, s'éloigne l'un de l'autre parce que il passe de déception en déception. Pour ça que c'est extrêmement important de découvrir quels sont nos fonctionnements inconscients au sein de notre couple, pour arrêter de faire jouer à l'autre les personnages de notre passé et d'avoir des attentes finalement infondées.
Et quand je repasse aussi en revue certaines épreuves qu'on a traversé, c'est bizarre d'appeler ça comme ça d'ailleurs, mais le fait d'avoir des enfants, qui est pas un passage incontournable hein, dans le couple, mais là dans le nôtre, voilà, on a eu deux enfants, et à la fois c'est une expérience magnifique, et en même temps, pour moi ça met vraiment à l'épreuve le couple, et d'avoir été pendant un temps quasiment uniquement avec nos casquettes de papa et de maman, ça a vraiment effacé justement cette dimension du couple. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était une phase de mise en danger quelque part. Du coup, j'aimerais bien voilà ton regard aussi sur cette étape.
Alors l'arrivée des enfants dans le couple, c'est à la fois une épreuve, mais aussi un ciment qui va consolider la relation. C'est une épreuve parce que sollicités par nos rôles de papa et de maman, nous avons tendance à faire passer au second plan nos rôles aussi de mari, d'épouse, de conjoint, quoi. On s'est mis ensemble aussi parce qu'on s'est aimé, on s'aime. Mais il se trouve qu'avec les enfants, qui sont des petits êtres plus fragiles que nous, c'est plus facile d'aimer et c'est plus facile d'avoir le sentiment d'être aimé par eux. Parce qu'ils ont vraiment besoin de nous, on le sent. C'est plus évident, en fait, notre utilité auprès de nos mômes. C'est plus facile à identifier et plus facile à vivre. Alors, on a tendance à consolider et à s'élancer dans ce rôle et à s'y investir de façon totale. Avec notre conjoint, c'est plus compliqué. Notre conjoint, comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, il est à la fois miroir de notre histoire, mais il a lui-même son histoire. Et ça nous demande un effort intérieur que de dire, moi, je veux pas céder aux apparences. Je veux essayer d'aller sentir qui il est. Ça nous demande un certain dépassement, une certaine ouverture sur l'autre, qu'on a moins besoin avec les enfants, qui est plus simple. Alors bien sûr, l'humain, il va la faciliter, donc il préfère se tourner vers ses enfants que vers son conjoint. Or, les enfants, si on observe bien, le développement des enfants se fait quand le couple va bien. Et les crises des enfants est la plupart du temps un reflet de quelque chose qui ne va pas dans le couple. Et comme on aime nos enfants, on a plus tendance à remettre en cause à ce moment-là notre fonctionnement de couple. Pour eux. Normalement, le rôle de parent va nous permettre d'approfondir notre amour de couple. Parce qu'ils sont là et parce que nous souhaitons qu'ils aillent bien, parce qu'ils sont là et que nous voulons leur offrir un environnement affectif fort qui leur permette leur croissance stable, eh ben on va se remettre en cause dans notre fonctionnement. On a besoin de se parler entre papa et maman, parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes éducatifs, on n'a pas les mêmes histoires. Et pour nos enfants, on va accepter de s'entendre, essayer d'aller sentir le monde de l'autre. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il a au fond de lui? Depuis où il parle? Depuis quelle souffrance il a, lui, de papa ou de maman? Depuis quelle souffrance même de son passé? Il est en train d'essayer de se comporter de telle ou telle façon avec les enfants. On va être obligé de s'entendre en profondeur. Parce que les enfants, ils nous convoquent à quelque chose, c'est « aimez-vous plus » et nous, ça nous rendra heureux. Donc, c'est à la fois, évidemment, source de danger, parce que c'est plus facile de s'occuper d'un enfant que de s'occuper d'un adulte dont on ignore beaucoup de choses. C'est à la fois un danger parce que c'est source d'une plus grande facilité, mais c'est aussi à la fois un ciment plus fort, parce que par amour pour nos enfants, on est capable de se remettre en cause, nous, pour que notre couple aille mieux.
Ça nous donne une force supplémentaire.
Ça nous donne une force supplémentaire, la présence des enfants.
Ok.
Entre parenthèses, je soulignerai que nous sommes là devant une nouvelle étape du couple. Couple de parents. Après avoir été un couple qui a été pris d'une passion amoureuse folle, nous avons rencontré le fait que l'autre n'était pas exactement ce à quoi nous rêvions et nous avons continué à l'aimer. Nous avons découvert que l'autre faisait miroir à nos propres faiblesses et que l'autre aussi avait ses faiblesses. Et nous avons appris à nous aimer dans ces deux dimensions. Grâce aux enfants, on va être capable de s'élever au-delà des traces de notre histoire, au-delà de nos différences, pour nous aimer en tant que couple, pour que eux, ils aillent bien.
Okay. Après, j'aimerais ton éclairage. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure de ce risque. Si on, justement, on se tourne pas vers ce monde intérieur, tout ce qui se joue, d'aller un peu de déception en déception. Et souvent, au bout d'une certaine durée, il y a une certaine usure. Un manque d'intensité, un manque d'un certain partage, on va dire. Et il y a un besoin de renouvellement. Et peut-être que, voilà, moi, les enfants sont encore jeunes, mais je pressens que ils font partie d'un projet commun au couple. Et puis après, voilà, leur place est de moins en moins forte, moins en moins importante. Et il y a besoin d'avoir d'autres projets, d'autres partages. Et que c'est parfois là, si on trouve pas ça, qu'il y a l'envie à un moment donné ou d'arrêter ou d'aller voir ailleurs. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à cet endroit-là?
Je dirais qu'il est normal qu'une relation de couple s'use. Les affres du quotidien, les nécessités éducatives avec les enfants font que parfois on est plus pris par ce qu'on a à faire que par la nécessité, le besoin profond d'être avec l'autre. Ça peut attendre, ça, on le place toujours au second degré. Je dirais que quand cette période d'usure arrive, c'est que justement, ça nous rappelle que cette relation amoureuse, elle est importante pour nous et qu'il faut qu'on la renouvelle. Si elle s'use, c'est un appel au renouvellement. Ce renouvellement, il peut avoir lieu de plusieurs façons. D'abord, les deux conjoints ne souffrent pas de la même chose dans cette usure. Parce que l'un et l'autre sont gardiens d'éléments qui seraient de nature à revitaliser le couple. Pour l'un, ça va être « je te vois pas assez », ça veut dire que ce couple a besoin de revivre de l'intimité. Pour l'autre, on est trop enfermé sur nous-mêmes, ça veut dire que ce beau couple a besoin de loisirs, d'ouverture commune, de sorties culturelles communes, de sorties avec des amis communes. Chacun d'entre nous est gardien d'un élément qui viendrait rééquilibrer ce couple. Et qu'à ce moment-là, il y a besoin d'une grande écoute pour faire dire à l'autre. Et même s'il ne le dit pas clairement, essayer de sentir derrière ses dires quels seraient les éléments qui seraient de nature à lui aussi, lui permettre de de retrouver goût à ce couple. Donc je dirais qu'il y a, dans ces instants-là, nécessité de pouvoir s'extraire de sa vie, de prendre ensemble 2-3 jours pour essayer de faire le point. Je pense que 2 fois dans l'année, ça serait pas mal déjà, parce que ça permet au couple de retrouver un nouvel élan. Je pense que profondément aussi, avec la croissance des enfants, notre rôle de parent va peu à peu s'estomper. Mais on a vécu un truc super fort avec nos enfants. Pendant quelques instants, pendant quelques années, nos enfants nous habitent. Leur bonheur sont les nôtres. Leurs souffrances sont les nôtres. Quand ils vont pas bien, on s'inquiète. Et peu à peu, on a appris avec nos enfants à les sentir au-delà de ce qu'ils nous disent. Peut-être que quand ils grandissent, cette habilité que nous avons développée pour eux a besoin de s'exprimer encore plus. Elle a besoin de s'exprimer sans doute avec d'autres personnes. Et il va falloir que ce sentiment d'aide, de service, puisque nous avons servi la croissance de nos enfants, ce sentiment, ce goût de servir la vie, puisse s'exprimer ailleurs. Et peut-être que ça peut être des projets de couple, ça aussi. Peut-être qu'il y a autour de nous des gens qui auraient besoin d'un coup de main de notre part. Comme on a aidé nos enfants, comme on a été à leur côté, il y a sans doute des personnes aussi qui ont des fragilités, qu'elles soient matérielles, affectives, qui ont besoin de notre présence. Et que peut-être que ça aussi, aider ensemble, servir ensemble, ça peut être un projet de couple, parce que ça va revitaliser ce côté où nous avons tellement aimé être au service de la vie de nos enfants, ensemble, et pourquoi on ne pourrait pas l'être pour d'autres qui eux aussi auraient des besoins, comme nos enfants l'ont eu avec nous. Je dirais que ça c'est une autre étape, c'est le couple qui devient co-serviteur, serviteur ensemble. Et je pense que c'est des questions fondamentales devant les couples. Les couples devraient se mettre. C'est-à-dire, bien sûr, on a besoin de se remettre en cause pour retrouver une intimité plus forte. Apporter des ingrédients qui fassent que cette vie amoureuse demeure puissante. Mais cette vie amoureuse, elle n'a eu du sens que parce qu'elle a servi les enfants. Et bien, peut-être que cette nouvelle vie amoureuse que nous sommes en train de réinventer, elle a pour but d'aller servir, mettez-le entre guillemets, d'autres types d'enfants, d'autres types de fragilités. Et qu'il y a d'ailleurs plein de gens qui attendent ce coup de main. Il y a des personnes âgées qui sont très seules. Il y a des personnes pauvres qui ont des besoins, qui ont des nécessités. Il y a des personnes malades qui auraient besoin d'être visitées, etc. Des prisonniers qui sont isolés. Il y a plein de douleurs, de souffrances sur Terre qui appelleraient peut-être que nous les servions, mais en couple. Nouvel ingrédient que, à mon avis, nos enfants ont suscité en nous et ont allumé, et qui sont la suite du couple. Bien sûr, pour ce faire, il faut apprendre à servir, il faut apprendre à aider, c'est pas quelque chose qui est naturel. Et on a besoin d'un enseignement sans doute spirituel qui nous y conduise, pour pas que aider soit une compensation, mais que aider soit un accomplissement.
Merci Sanji. Est-ce que tu voudrais dire encore un mot peut-être sur... voilà les ingrédients pour continuer à vivre en couple dans la durée. Tu en as dit beaucoup, hein, mais je sens bien là à travers tout ce qu'on s'est partagé que il y a des étapes et à chaque fois c'est rechoisir. Et qu'est-ce qui peut donner voilà la force, l'élan de chaque fois rechoisir, que ce soit voilà, au sein du couple ou dans cette ouverture, justement, se mettre au service autour de soi.
Je dirais que si on avait à se résumer, il y a 5 grandes étapes, quoi. Hein. L'étape de la passion amoureuse, l'étape de l'autre miroir de nos propres imperfections, les rencontres, 3e étape, la rencontre avec l'imperfection de l'autre, 4e étape, les enfants qui arrivent dans notre vie, et 5e étape, c'est servir ensemble, je dirais. Je pense qu'il y a des étapes qui se font assez naturellement. On a toujours besoin d'avoir un regard extérieur, ou en tout cas de s'arrêter nous-mêmes, regard extérieur de nous sur notre vie, je veux dire. Hein. On a toujours régulièrement besoin de s'arrêter pour faire un point d'abord entre conjoints. Parfois, on a besoin de se faire aider. Mais je dirais que dans l'étape, notamment, si on veut faire de notre couple un couple spirituel, il y a nécessité de suivre une voie spirituelle. Un enseignement qui nous apprend à la fois dans la théorie, un autre point de vue sur le couple, et puis dans la pratique, de se doter d'outils qui vont nous faire grandir, qui vont nous permettre de croître nous-mêmes au sein du couple, d'un point de vue spirituel. Un point de vue spirituel, c'est « je ferai tout pour t'aimer, t'aimer encore mieux, t'aimer d'un cœur de plus en plus brûlant. » Pas des fois, c'est pas très bien fait. Or, la vie spirituelle propose des outils, des façons de faire qui nous permettent de croître dans ce cœur brûlant que nous rêvons tous d'avoir pour l'autre. Peut-être que la vie spirituelle nous offre tous les ingrédients pour que nous accomplissions nos rêves de communion, nos rêves d'intimité profonde avec quelqu'un sur Terre, notre conjoint.
Merci Sanji.
Merci Estelle.
J'espère que ce partage vous a apporté quelques clés pour trouver ce qui est juste pour vous, dans votre vie, et vous aidera à faire un pas de plus pour mieux aimer et vous laisser aimer. Et si ce regard a éveillé votre curiosité, que vous avez envie d'expérimenter, vous pouvez écouter le podcast « On s'arrête ensemble ». Enfin, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à faire un tour sur le site internet arthas.org. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Soyons contagieux de douceur. Le monde en a bien besoin. À bientôt !